Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture. Lecture par tous, numéro 40. Alors, pour ce 40e de Lecture par tous, nous allons voyager dans le monde en poésie, s'il vous plaît. Et oui, car notre confrère collecteur François Chabot a rencontré un des fondateurs et actuellement un des principaux animateurs de Poetas del Mundo. Poète du monde. Alors qu'est-ce que c'est que poète du monde ? Ben, poète du monde, c'est un mouvement international de poètes qui entendent mettre la poésie au service de l'humanité, tout simplement. Alors c'est une ONG, et oui, une ONG poétique, ça existe, c'est une ONG poétique, donc qui est, comme toutes les ONG, elle dépend d'aucun gouvernement, d'aucune institution politique, religieuse ou de quoi que ce soit. 9000 poètes membres, 137 pays répartis sur les 5 continents. Eh bien, cette organisation a réalisé son deuxième festival international de la parole en France. Il y a eu une première édition qui était ailleurs. La deuxième édition vient d'avoir lieu en France et elle a commencé à Montpellier. Alors, c'est passé. Ça va se terminer ce week-end à Paris, puisque ça a commencé à Montpellier, et puis c'est allé à Lyon, et puis ça va finir à Paris. Ce voyage poétique avec 12 poètes d'un peu toutes les régions du monde. Et donc, à cette occasion, lorsqu'ils étaient à Montpellier, François Chabot a rencontré Luis Arias Monzo, qui est un des fondateurs, il est un des principaux animateurs de Poetas del Mundo, et vous allez tout savoir tout de suite.
Oui, c'est un mouvement qui n'appartient à aucune idéologie en particulier, qui n'est lié à aucun gouvernement ni organisation politique ou religieuse. C'est un mouvement ouvert qui compte à l'heure actuelle plus de 9000 poètes membres. Et on est présent dans 137 pays des 5 continents. Et nous faisons des manifestations poétiques dans différents lieux de la planète. Et par exemple, nous avons fait une rencontre au nord de l'Italie du 6 au 15 septembre. Du 21 au 27 septembre, il y a eu la cinquième rencontre des poètes du monde au Taïwan. Maintenant, demain, on commence notre deuxième festival de la parole en France, ici justement à Montpellier. Une rencontre qui va durer jusqu'au 21 octobre. On finit à Paris, en passant par Lyon et Saint-Étienne. De Paris, on va partir à Mozambique. On a notre première rencontre à Mozambique avec des poètes latino-américains et d'autres lieux de la planète qui viennent à nos rendez-vous. Et l'objectif, c'est toujours porter ou mener un message d'espoir, de paix, un message pour les nouvelles générations surtout, et ce message a à voir avec le drame que vit l'humanité actuellement. C'est un drame qui auparavant on n'avait pas connu. Ça fait à peu près trois décennies, 30 ans, qu'on parle du réchauffement global de la planète. Et c'est ce phénomène met en risque le futur de l'humanité. Donc il faut faire conscience au niveau global qu'il faut changer d'attitude. malheureusement, et ceux qui mènent ou qui gouvernent la planète, ce sont des groupes très minoritaires. On dit que ce ne sont pas plus de 1000 familles qui décident sur la destinée de l'humanité. Et c'est justement la croissance économique, c'est la consommation qui est en train de tuer notre planète actuellement. Oui. On sait que plus de 60% d'espèces animales des océans ont disparu ces derniers 50 ans. Donc c'est affreux quand on voit les chiffres. Et c'est affreux quand on écoute des gouverneurs qui se moquent de ce qui se passe avec le changement climatique. Donc ce qu'on fait, on le fait avec beaucoup d'amour, on le fait avec de l'espoir, mais tout en sachant que ça ne suffit pas.
Bien sûr. Et cet élan que tu trouves depuis quand même pas mal d'années, mais non, la date de fondation, c'est 2005
On a fondé le mouvement le 14 octobre 2005, c'est ça. Au Chili.
Au Chili, oui.
Au Chili.
Avec toi, tu es né au Chili, oui. Et tu étais exilé à cause du coup d'état de Pinochet. Tu avais 17 ans.
Hein. Oui, oui.
Et tu as passé plusieurs années en France où tu as
12 ans.
Travaillé sur la traduction aussi.
Oui, oui. J'ai quitté le Chili en 1975, un an et demi après le coup d'état, oui. Qui a renversé le gouvernement de Salvador Allende. Je suis parti en Argentine. J'ai vécu 4 ans à Mendoza, juste une ville à frontalière, à côté de Santiago, pas trop loin. Et c'est là qu'il s'est développé la triste et célèbre opération Condor, oui. Qui consistait à faire disparaître des opposants de tous ces régimes du sud de l'Amérique. Argentine, le Chili, la Bolivie, le Paraguay, le Brésil.
Il y a aussi une question d'intérêt, parce que je pense toujours qu'en, enfin, au sujet de l'Amérique latine, du formidable livre d'Eduardo Galeano, Las venas abiertas,
Eduardo Galeano qui a disparu il y a oui. quelques années, un grand penseur de l'Amérique, un grand militant aussi.
Très juste dans ses propos, une bonne analyse.
Oui, la... C'est quelqu'un qui nous a laissé un grand bagage de pensée contemporaine. Et bon, il y a d'autres qui continuent cette lutte, non, pour faire conscience.
Bien sûr.
Voilà, on connaît, hein, on connaît la triste histoire de l'Amérique,
oui.
Depuis l'arrivée.
Tragique, oui.
Tragique
histoire.
Triste histoire, ouais. L'homme est cruel. Hein.
Très cruel, oui. Et puis, essaye de mettre une couche superficielle qui cache sa cruauté. Enfin,
ça n'a pas changé, malheureusement.
Oui.
Et le poète ne peut pas rester indifférent.
Il ne peut pas rester indifférent, il est obligé de dire sa vérité.
De tout ça, ouais. Il doit même
révéler,
se nourrir, de s'inspirer de tous ces malheurs de
oui.
l'être humain. On a été en Italie, on a été à Vérone, mais pour moi le plus touchant
oui.
de toute cette rencontre, c'était à Venise.
Ah oui, ah, oui je sais pourquoi. Je crois parce qu'il y a le bateau qui a récolté, oui. Qui a récupéré des migrants.
C'est un bateau qui a coulé,
qui a
naufragé avec presque 1000 migrants,
oui,
dont seulement 26 ou 27 ont survécu.
Oui,
il y a plus de 900. Immigrants de l'Afrique qui sont morts et face aux côtes de Sicile.
Oui.
Et ça, c'est une tragédie, mais qui
c'est horrible, affreux, oui, horrible. Affreux. Insupportable.
Insupportable. Et ça, les immigrations, actuellement, c'est à l'actualité. On voit ces caravanes des gens qui fuient l'Amérique centrale pour arriver aux États-Unis en cherchant une possibilité. Et on voit comment on les réprime, comment on les empêche. tous les drames latino-américains, tout le drame qui vit surtout l'Amérique centrale,
oui.
Et se doit aux grands puissants du Nord.
Oui, tout à fait.
Qu'on ne nous a pas laissé jamais nous,
bien sûr, nous gérer laissé les affaires, nos affaires par les gens du pays.
Chaque fois qu'on veut
l'ingérence,
arriver en fait, à construire une société meilleure, on a un coup d'État.
C'est ça,
on, on nous intervient économiquement, politiquement et militairement. On le voit actuellement avec le Venezuela, un pays qui est harcelé, qui... On prend ses ressources économiques à l'étranger, on bloque ses capitaux, et voilà, mais en même temps on les accuse que les gens sont en train de mourir de faim, qu'ils n'ont pas de médicaments, mais il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de nourriture, parce que justement et les grands, les puissants, ils sont en train de bloquer tout. Donc c'est... Et puis il y a dans le monde les moyens de communication dans le monde sont tous contrôlés par un seul secteur. Et Internet aussi, ça devient la même chose. Il n'y a pas, une manière d'arriver à la conscience des peuples.
Oui.
C'est très difficile.
Oui.
Parce qu'en
fait, il faudrait le médium de la poésie n'est pas diffusé par des médias très suffisamment développés pour toucher tout le monde. Parce que justement, c'est l'intérêt de tes rencontres, c'est que tu vas à la rencontre de publics différents. Je pense notamment à Cuba ou en Asie, enfin dans le monde entier,
tu vas
au Mozambique, tu as dit, voilà.
De partout,
partout. Ce rapport direct de la lecture de poètes à un public qui est captif, qui est à ce moment-là, qui trouve enfin les mots pour pouvoir se déterminer et s'exprimer. Parce que, en fait, contre la tyrannie, contre la dictature, rien ne vaut la nuance des mots, la vérité du poète.
Oui. Oui, nous, on va dans les écoles.
C'est ça, la jeunesse.
Oui. On va dans les lycées, les collèges, donc, les universités. On essaie d'aller chez les travailleurs,
oui. Dans
des usines, des fois, quand on peut. Et chez les pêcheurs, au Chili, on le fait beaucoup. Et d'aller voir les pêcheurs, les mineurs, les paysans, mais surtout les jeunes générations. Et oui, on lit des poèmes, mais des poèmes qui ont un sens et avec notre message. Mais surtout, ce qu'on fait, c'est un dialogue avec les jeunes, écouter ce qu'ils pensent et de tout ce qui se passe dans le monde. Et on est souvent surpris de la conscience qu'ils ont et de la connaissance qu'ils sont, et ils sont conscients que c'est nous, notre génération,
oui,
qu'on est en train de leur laisser une planète...
Un monde dévasté.
Dévasté, voilà. C'est ça les mots.
Oui. Tu dis qu'il y a environ 9000 poètes,
oui,
sur la planète. Est-ce que... c'est plus difficile de toucher les poètes qui ne sont pas d'Amérique latine que les autres.
Oui, et ça a été plus facile pour l'Amérique latine, puisque je viens de Chili.
Sur place, oui.
Mais nous avons eu, dès le début, des poètes que j'appelle des anges.
Des anges.
Des anges.
Des porteurs de...
Des porteurs qui ont ouvert les portes.
Qui les portes,
par exemple,
c'est ça,
ouais,
qui permettent
dans le monde arabe.
Il y a beaucoup de délégations, enfin, de délégués, d'ambassadeurs,
oui,
de consuls.
Oui. Après, c'est venu ça.
Voilà.
Au début, et par exemple, est apparu un poète tunisien,
oui,
et Youssef Rouassouga, qui a intégré les poètes du monde arabe. On a plus de 1000 poètes dans le monde arabe qui font partie de notre mouvement. J'ai été au Maroc, j'ai été en Jordanie. Et j'ai rencontré beaucoup de poètes arabes là-bas. Et ils nous ont traduit le manifeste en arabe. Et comme ça, on a eu des poètes qui ont apparu. soudainement et qui ont aidé à unir les poètes de oui. tout le monde. Mais effectivement, il y a des pays, des régions dans le monde où c'est plus difficile. L'Afrique, ça a été très difficile. L'Afrique et l'Asie, c'est plus difficile. L'Europe, pas trop.
L'Europe, en fait, tu avais quand même des bases en Europe avec des relais aussi, je pense.
Oui,
que...
tout à fait, oui. Et on a un président mondial qui est un poète
remarquable,
bulgare, franco-bulgare.
Oui. Un poète remarquable, c'est magnifique.
Atanas Vantchev de Tracy, c'est notre président. Et aujourd'hui, peut-être au moment qu'on en parle en ce moment, on devrait connaître le nom du prix Nobel de littérature à Stockholm, aujourd'hui, en ce moment. Et lui, il est candidat au prix.
Mais il est
sur la liste. Il est présenté par une université bulgare. Espérons que ce soit lui, parce que ça ouvrirait aussi des énormément. Possibilités pour nous.
Exactement. Ouais. C'est sûr que pour la. Poètes du monde.
Voilà,
ce serait. Le président qui devient président pour Nobel.
Ouais, on ne sait jamais, hein. J'espère.
Ouais, on veillera très bientôt, on s'informera.
Oui, oui. Ce poème, Agua Luna 14, est. On va se percevoir une chose que j'ai vécue quand se finissait le 20e siècle. On finissait le millénaire. Il y a un changement chez moi. Jusqu'à ce moment-là, j'étais très militant politique. J'avais une conception de la vie matérialiste dans le sens philosophique. Je crois à la matière, je ne croyais pas à l'esprit. Mais quand finissait le 20e siècle et en arrivait au 21e siècle, sont apparues dans ma vie des muses qui ont changé ma conception de l'existence humaine. Agua Luna, par exemple, c'est une personne qui regarde les cartes du tarot. Et c'est curieux parce que mes trois premiers livres, Agua Luna, Milan d'amour et Instant, ce sont des muses qui apparaissent dans ma vie pour me faire écrire et pour m'ouvrir une porte, une fenêtre spirituelle de l'existence. Donc ce livre, ça parle de ça, c'est une sorte de conflit entre le matérialisme et la spiritualité. Ok? Donc, le poème là parle de la rencontre avec une personne qui est en fait la muse de mon deuxième livre, Milan d'amour, qui vient dans une période très courte. Agua Luna, elle est apparue pendant 28-30 jours. Elle disparaît, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus su d'elle. La deuxième, dont on parle de ce poème, elle est restée 10 jours. Elle m'a fait écrire le livre Milan d'amour, qui a à voir avec les vies passées. C'est toute l'histoire de l'humanité qu'on s'est battu et ici en terre. C'est un peu ça. Et le drame de l'humanité et aussi ce qu'on a vécu, nous, en expérience propre, comme le coup d'État au Chili, par exemple.
Alors, de Luis Arismanzo, Agua Luna 14, extrait de Agua Luna, un recueil emblématique, je pense, dans ton existence. Amour d'Agua Luna, il y a quelques jours, j'ai fait un rêve. Nous étions dans une forêt aux arbres ancestraux. Nous étions un groupe de guerriers et de guerrières. Nous luttions pour des causes justes et saintes. Et soudain, ce fut le massacre. Nous étions tombés dans une embuscade dont nul n'était sorti vivant, Nous fûmes sauvagement assassinés, mais nous eûmes auparavant le temps de faire un pacte que tous nous signâmes de notre sang. Les années et les siècles passèrent, les âges des calendriers s'estompèrent, vinrent les guerres et les occupations. Alors on blasphéma les légendes de nos ancêtres et les faux guerriers remplacèrent les vrais. Vint le temps des massacres et des coups d'État, des tortures et des crimes sans nom. Le monde semblait assiégé. Je voyais tout comme dans un kaléidoscope qui effaçait mon nom. Tout à coup, apparut une lumière disparue depuis des années. Celle d'un regard connu et marqué par le temps. Elle me prit par la main, la serra me faire mal. Je te cherchais, me dit-elle. Je t'ai cherché longtemps et je te retrouve enfin. Tu sais, nous sommes tous de retour. Nous sommes en train de réaliser le pacte. Nous revenons du bois aux lucioles, là où le feu a anéanti notre peau et nos os, mais n'est pas parvenu à brûler notre âme. Je me suis réveillé avec ces images, mon amour et mon âme, enflammées par les incendies du rêve, à continuer, à vibrer, toutes bouleversées par ton regard. Je ne peux m'empêcher de regarder la ligne dansante de l'horizon en flammes, le soleil et la terre noire. Mon amour, laisse-moi trouver refuge dans ta forteresse. Donne-moi le fin mot de tant de cavalcades d'or dans des prairies mille fois parcourues en pleurs et attentes. J'ai le cœur serré comme des nœuds marins. Donne-moi tes baisers, Agualoun. Je sentir que je vis. Alors, c'est aux éditions Apostrophe.
Oui, c'est ça, ouais. Merci.
Peux-tu nous dire un peu comment tu vois cette maison d'édition Apostrophe et peut-être en lien avec la librairie elle-même?
Oui, c'est au début, et quand je suis retourné au Chili en 91, après que les militaires ont quitté le pouvoir, et j'ai monté à Santiago une librairie spécialisée en texte en français. Et au début, c'était des livres neufs, mais petit à petit, c'était des livres d'occasion. Et ça n'a jamais été rentable pour moi, mais elle m'a ouvert des portes, m'a permis de rester en contact avec la culture française. Et cette librairie, je l'ai appelée Apostrophe, souvenir de Bernard Pivot. Le programme de Apostrophe. Et après, je suis devenu écrivain. Donc mes livres, j'ai voulu qu'un éditeur puisse les éditer. Mais je n'ai pas trouvé un éditeur. Et je me suis dit, mais je vais créer ma propre édition, maison d'édition. Et je l'ai appelée Apostrophe. Donc j'ai commencé pour éditer mes livres, mais petit à petit, il y a eu d'autres personnes qui ont voulu que j'édite leurs livres. Et c'est comme ça qu'est né Apostrophe Édition. Et par la suite, j'ai fondé le mouvement Poètes du Monde en 2005. Et j'ai commencé à voyager beaucoup. Je ne pouvais pas m'occuper beaucoup de la librairie. Elle est devenue, même aussi avec l'apparition de l'ère digitale, et les livres se vendaient de moins en moins, et elle est devenue déficitaire pour moi. Donc en 2007, je l'ai fermée et j'ai développé davantage l'édition. Donc finalement, et Apostrophe, elle a une centaine de titres édités, mais sont surtout des poètes du monde, des membres, qui me demandent d'éditer leurs livres.
Et c'est comme il y a aussi un agenda qui...
fait un agenda il y a 5 ans à peu près, et avec des poètes qui offrent un de poèmes
pour être... offrent les droits des poèmes.
Voilà, les droits pour que nous on puisse éditer cet agenda et la vendre pour financer
l'organisation potentiellement
voilà. Mais on l'a arrêté il y a un an parce que aussi il n'est pas devenu très rentable.
Et énormément de travail et avec peu de retombées concrètes.
Voilà. Donc on cherche on cherche des manières
de
financer notre mouvement sans tomber dans la dépendance.
Voilà, c'est toujours l'indépendance qui prime. Donc là, justement, le protest de Mood, ça tient par. Il n'y a pas d'adhésion, il n'y a même pas d'adhésion
pour le reste du monde. Donc, en ce moment, j'ai un projet depuis 12 ans à peu près, qui consiste à à trouver un véhicule pour l'aménager en camping-car.
Des livres.
Et venir avec des livres, des poèmes, nos manifestes, et d'accord. Sillonner la France, l'Europe, et aller de village en village pour porter la parole.
C'est ça.
Et on n'a pas trouvé les moyens. Si jamais ils nous écoutent, quelqu'un qui a une idée...
Aménager un véhicule qui puisse se déplacer dans toute l'Europe.
Avec nous, oui, qu'on puisse dormir avec, voyager, faire
un lieu de repas. De repli, enfin, pas de repli, mais un lieu constant où on sait qu'on est chez soi. Enfin,
et aller de partout, aller dans les écoles, les hôpitaux.
Aux endroits les plus démunis aussi.
Voilà, et mener notre message.
Ça, c'est une belle idée. Hein.
C'est une idée qu'on a, mais il nous faut les moyens, quoi.
Ouais. C'est sûr que si des personnes entendent cela et disent « Ah, j'ai un véhicule qui ne sert pas, qui peut être aménagé. »
Qui peut nous servir, oui.
Je me souviens, à l'ODEV, pendant les Voies de la Méditerranée, enfin, non, c'était après les Voies de la Méditerranée, c'était pendant Urgence Poésie, il y avait la caravane syrienne qui était là. Donc c'était une caravane aménagée pour des artistes qui font des expositions et qui étaient itinérants, justement. Donc ils y mangent, ils y dorment, et ils traversent l'Europe comme ça, avec les œuvres des artistes syriens.
Ah oui.
C'est très intéressant, en plus c'est de très grande qualité. Quoi.
Oui, j'ai pensé à ça, et j'ai même rêvé d'avoir plusieurs véhicules, qu'on puisse faire des caravanes poétiques, avec des poètes qui viennent de partout, de n'importe où.
Oui,
leur proposer la possibilité de nous accompagner, des trajets, et parcourir, je sais pas.
Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a aussi toutes ces éditions que tu fais de poésie comme à Taïwan, dans différentes langues. Le fait que le manifeste lui-même se traduit dans combien de langues?
Une trentaine.
Trentaine de langues, oui. C'est quand même un effort c'est beaucoup, considérable, ouais. C'est formidable.
Oui, oui.
C'était François Chabot qui rencontrait Luis Arias Monzo, animateur et un des fondateurs du mouvement de l'ONG poétique Poetas del Mundo. Merci à Rongemaille, à la technique, et à très bientôt pour de nouvelles aventures littéraires. Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture.